Une parenthèse est ici nécessaire. Les bonnes gens qui n'aiment pas la digression ou qui regardent l'infini comme un hors-d'œuvre sont dévotement suppliés de ne pas lire ce chapitre, qui ne modifiera rien ni personne et qui sera probablement regardé comme la chose la plus vaine qu'on pût écrire. À tout prendre, ces gracieux lecteurs feraient encore mieux de ne pas ouvrir du tout le présent volume, qui n'est lui-même qu'une longue digression sur le mal de vivre, sur l'infernale disgrâce de subsister, sans groin, dans une société sans Dieu. L'auteur n'a jamais promis d'amuser personne. Il a même quelquefois promis le contraire et a fidèlement tenu sa parole. Aucun juge n'a le devoir de lui demander davantage. La fin de cette histoire est, d'ailleurs, si sombre, quoiqu'illuminée de bien étranges flambeaux, qu'elle viendra toujours assez tôt pour l'attendrissement ou l'horreur des sentimentales punaises qui s'intéressent aux romans d'amour. Il est incontestable que le fait de recevoir des présents, et surtout ce qu'on est convenu d'appeler des cadeaux utiles, est, aux yeux du monde, l'effet évident d'une monstrueuse dépravation. Quand la femme qui les reçoit est disponible et que l'homme, célibataire ou non, qui a l'audace de les offrir, n'est ni son proche parent ni son fiancé. Mais la dépravation, de simplement monstrueuse qu'elle était, devient excessive si les objets, offerts d'une part et franchement acceptés de l'autre, sont d'usage intime et, conséquemment, significatifs de turpitude. L'oblation d'une chemise, par exemple, crie vers le ciel. À ce point de vue, l'indéfendable Clotilde eût été réprouvée par les moralistes économes, avec une énergie presque surhumaine. Du côté des femmes, cependant, les plus hautes bégueules eussent été forcées de reconnaître, au cours de leurs anathèmes, que Gacougnol avait fait à peine son devoir, et que ses dons, quels qu'ils fussent, en supposant même la magnificence de plusieurs califes, n'aurait jamais pu être qu'une défectueuse et insuffisante offrande. Les femmes sont universellement persuadées que tout leur est dû. Cette croyance est dans leur nature, comme le triangle est inscrit dans la circonférence qu'il détermine. Belle ou laide, esclave ou impératrice, chacune ayant le droit de se supposer la femme, nul n'échappe à cet instinct merveilleux de conservation du sceptre, dont la titulaire est toujours attendue par le genre humain. L'affreux cuistre Schopenhauer, qui passa sa vie à observer l'horizon de fond d'un puits, était certes bien incapable de soupçonner l'origine surnaturelle du sentiment dominateur qui précipite les hommes les plus forts sous les pieds des femmes, et la chiennerie contemporaine à glorifier sans hésitation ce blasphémateur de l'amour. De l'amour assurément, car la femme ne peut pas être ni se croire autre chose que l'amour lui-même. Et le paradis terrestre, cherché depuis tant de siècles par les donjons de tous les niveaux, est sa prodigieuse image. Il n'y a donc pour la femme, créature temporairement, provisoirement inférieure, que deux aspects, deux modalités essentielles, dont il est indispensable que l'infini s'accommode, la béatitude ou la volupté. Entre les deux, il n'y a que l'honnête femme, c'est-à-dire la femelle du bourgeois, réprouvée absolue qu'aucun holocauste ne redime. Une sainte peut tomber dans la boue et une prostituée monter dans la lumière, mais jamais ni l'une ni l'autre ne pourra devenir une honnête femme, parce que l'effrayante vache aride qu'on appelle une honnête femme et qui refusa naguère l'hospitalité de Bethléem à l'enfant Dieu est dans une impuissance éternelle de s'évader de son néant par la chute ou par l'ascension. Mais toutes ont un point commun, c'est la préconception assurée de leur dignité de dispensatrice de la joie. Causa nostrae laetitiae. Janua celi. Dieu seul peut savoir de quelle façon, parfois, ces formes sacrées s'amalgament à la méditation des plus purs et ce que leur mystérieuse physiologie leur suggère. Toutes, qu'elles le sachent ou qu'elles l'ignorent, sont persuadées que leur corps est le paradis. Planta verat autem dominus deus paradisum voluptatis a principio, in quo possuit hominem quem formaverat. Par conséquent, nulle prière, nulle pénitence, nul martyr n'ont une suffisante efficacité d'impétration pour obtenir cet inestimable joyau que le poids en diamant des nébuleuses ne pourrait payer. Jugez ce qu'elles donnent quand elles se donnent et mesurez leur sacrilège quand elles se vendent. Or voici la conclusion tirée des prophètes. La femme a raison de croire tout cela et de prétendre tout cela. Elle a infiniment raison, puisque son corps, cette partie de son corps, fut le tabernacle du Dieu vivant, et que nul, pas même un archange, ne peut assigner des bornes à la solidarité de ce confondant mystère. On a vu plus haut que Gacougnole était sorti dès le matin, et qu'il avait déployé pour Clotilde une activité extraordinaire. Au retour, il trouva devant sa porte une vieille, qu'il prit de loin, étant un peu myope, pour un très long prêtre desséché par d'apostoliques travaux et profondément affligé de la pestilescence des cœurs. La mère Chapuis, vêtue de noir, s'abritait en effet sous un immense chapeau en calèche, d'une antiquité fabuleuse, qu'elle avait dû découvrir sur des alluvions d'immondices, et se tamponnait activement les yeux avec un sordide mouchoir à carreaux qui eût été fort à sa place dans quelque rigole de faubourg. Ce fut d'une voix agonisante qu'elle se fit connaître au peintre, dont la première pensée fut de l'envoyer au diable, mais qui se ravisa en songeant à la tranquillité de Clotilde que pouvait rendre impossible cette mère ignoble. Il se résigna donc à la faire entrer, se disant qu'une pareille ordure, après tout, ne tiendrait pas une place énorme, et qu'ensuite on pourrait brûler quelques parfums. L'ingression de la chipie fut d'ailleurs une belle chose qui le récompensait déjà de sa vertu. Elle parut glisser, s'appuyant au mur, comme ne pouvant plus porter son fardeau, en même temps qu'elle ouvrait une large écluse de ses gloussements singultueux qui donnerait à penser à tout l'univers que les forces d'une pauvre mère sont décidément épuisées, qu'il n'y a plus moyen du tout de soutenir une croix si pesante, et que si le secours d'en haut se fait plus attendre longtemps, elle va succomber dans quelques instants. À tout autre moment, l'énorme dégoût d'une telle présence eût été plus fort que le sentiment même du ridicule, et Pélopidas aurait, à coup sûr, manqué de douceur. Mais il avait l'âme joyeuse, ayant fait exactement ce qui lui plaisait, et le caricaturiste l'emporta. « Madame, dit-il, soyez persuadée que votre visite me plonge dans le ravissement. Par malheur, mes travaux ne me permettant pas de m'abandonner plus de 5 minutes aux délices probables de votre conversation, je vous serai infiniment obligée de vouloir bien me dire en 2 mots votre petite affaire. » Arrivée au centre de la vaste pièce, la mère Chapuis s'arrêta, laissant tomber ses 2 mains ouvertes, la paume en dehors, à l'extrémité de ses 2 longs bras collés au flanc, dans la posture soigneusement étudiée d'une chrétienne généreuse devant un farouche proconsul. Simultanément, son menton, par 2 savantes oscillations, décrivait une courbe rentrante sur sa gorge avachie d'antique farceuse, élevant à droite et à gauche une gueule de cymodécée, des anciens trottoirs, aspirant à la céleste patrie. « Ma fille, expira-t-elle enfin, qu'avez-vous fait de ma pauvre enfant ?» Et cette réclamation maternelle était comme le plus suprême des souffles passant à travers une flûte parthénienne. Pélopidas, que l'aspect de cette vieillarde confite emplissait provisoirement de cocasserie, eut, 1 minute, la tentation de lui adresser la même parole qui avait produit 24 heures auparavant un si surprenant effet, et fut sur le point de lui crier « Déshabillez-vous !» Mais aussitôt une horrible peur lui vint d'être pris au mot, et il se contenta de cette réponse. Votre fille est chez elle, probablement. Comme j'aurai besoin de sa pose très souvent et que votre quartier est au diable, je lui ai conseillé de vivre désormais un peu moins loin. C'est pour cela que je vous ai envoyé une dépêche hier soir. » À ces mots, la martyre parut chanceler. Se prenant le front à deux mains, elle poussa ce cri pathétique. « Ah, mon Dieu, c'est le dernier coup. Cette fois, c'est bien la fin. Vous me punissez, doux Jésus, pour avoir trop aimé mon enfant. Oh, mon pauvre cœur !» Ce précieux organe étant devenu, apparemment, trop onéreux pour sa faiblesse, elle jeta autour d'elle des yeux égarés et, aucune âme charitable ne se hâtant de lui présenter un siège, s'avança dans la direction du canapé, imitant avec succès les petits pas ataxiques des cabotins de mélodrame. L'effroi du peintre fut extrême à la pensée que cette houri de cauchemar allait se vautrer sur le meuble confident de ses méditations les plus sublimes. Il se précipita et, la saisissant par l'eau du coude qui coupait autant qu'un silex, la retourna vers la porte. « Ah, ça, dites donc, chère madame, est-ce que vous vous croyez à la morgue par hasard ? J'ai eu l'honneur de vous exprimer, le plus respectueusement que j'ai pu, mon sensible chagrin de ne pouvoir vous écouter avec tout le recueillement imaginable. J'ai moins encore le temps de contempler vos grimaces de désespoir, bien qu'elles soient exécutées assez proprement, je le reconnais. Si donc vous n'avez rien à me notifier de plus palpitant, je vous conjure de vouloir bien disparaître. » La vieille, comprenant qu'elle allait être jetée dans la rue et qu'avec un tel homme il ne fallait pas compter exclusivement sur des effets pathétiques, prit le parti de se déclarer. « Monsieur, gémit-elle, rendez-moi ma fille. C'est la seule consolation de mes vieux jours. Vous n'avez pas le droit de séparer une mère de son enfant. Elle doit être cachée dans votre maison, puisqu'elle n'a pas d'argent pour vivre à l'hôtel. Mon Dieu, je n'y verrais pas encore trop de mal si ce cher trésor avait trouvé une bonne amitié. Je vois bien que vous êtes un brave et honnête monsieur qui savait vivre, et vous ne voudriez faire de tort à personne, n'est-ce pas ? Seulement, voyez-vous, c'est une enfant qui n'a pas d'expérience, et rien ne remplace les conseils d'une tendre mère. Le ciel m'est témoin que j'ai élevé saintement. Vous ne voudriez pas la tromper, vous êtes trop consciencieux pour ça. Je vois bien que vous êtes un peintre loyal. Et puis, on peut toujours s'entendre quand on est des personnes bien. Moi, voyez-vous, monsieur, j'ai connu l'adversité. Mais vous comprenez que je ne suis pas la première venue. Oh, j'ai une belle naissance, allez. On voit bien que je ne suis pas une femme du peuple. J'ai du savoir-vivre et des manières comme il faut. Le malheur a voulu que j'aie épousé un homme indigne de moi, qui a fait le deuil de ma vie et qui m'a couronné d'épines. Mais tout le monde pourra vous dire que j'ai noblement supporté l'infortune. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours marché droit et j'ai donné le bon exemple à mes filles. « Tenez, ajouta-t-elle, transportée soudain et comme une femme qui ne résiste plus à son cœur, en ouvrant les bras à Pélopidas, qui recula terrifiée. Si vous vouliez, nous serions si heureux ensemble. On ne se séparerait plus, je viendrais vivre auprès de vous, avec mon chéri, et ce serait la famille du bon Dieu. » Le coup était direct et atteignit en plein le destinataire, dont toutes les patiences furent au moment de chavirer. Cependant, l'oblation imprévue du père Chapuis, envisagé comme futur compagnon d'une existence familiale, raviva une minute sa gaieté. « En effet, dit-il gravement, c'est un avenir. Ce chéri dont vous me parlez, c'est sans doute le joli garçon qui était ici avant-hier. Je vous fais mon compliment. Vous avez bon goût pour une femme comme il faut, et vous êtes parfaitement assortie. Il vous roule à coups de botte, n'est-ce pas ? Oh, monsieur, pouvez-vous dire ? Un si noble cœur, et qui aime tant notre chère Clotilde. » Oui, et qui voudrait bien coucher avec elle, hein ? Pendant que la vertueuse mère tiendrait la chandelle. « Ah, vieille sorcière » cria-t-il enfin déchaîné, « vous êtes venue pour essayer de me vendre votre fille, que vous avez peut-être volée autrefois, car il n'est pas croyable qu'elle soit jamais sortie de votre paillasse à Vermine. Ce serait à déconcerter le tonnerre de Dieu. Et vous espérez me carotter de l'argent, pas vrai ? Ma belle, vous avez fait ce joli calcul avec votre voyou, que la pauvre fille était devenue ma maîtresse et qu'on pourrait me taper à volonté, en me faisant des scènes à domicile. Vous me prenez donc pour un conscrit. Écoutez-moi bien une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer que mademoiselle Clotilde n'est et ne doit être pour moi qu'une amie. Vous ne comprendriez jamais qu'une jeune fille élevée par vous puisse être autre chose qu'une putain. Mais comme vous croyez avoir des droits sur elle, ce qui est vraiment bien drôle, je vous avertis, dans votre intérêt, qu'il n'y a rien à faire avec moi, rien de rien, et que je ne suis pas de ceux qui se laissent embêter. Votre fille ira vous voir si elle le veut, ça la regarde. Pour moi, je vous défends de remettre les pieds ici. Mon atelier n'est pas un salon de roulure et je ne suis pas patient tous les jours. Quant à votre salaud, je l'engage à se tenir tranquille s'il tient à sa carcasse. Maintenant, assez causé. Foutez le camp et tâchez de filer raide. Sinon, je vous fais ramasser par les sergots. Allez, oups !» La porte se referma et la femelle d'Isidore, transférée magiquement sur l'asphalte, s'enfuit, larmoyante et enragée, mais comblée d'une crainte salutaire par ce diable d'homme dont la voix sonnait comme les cymbales de Josaphat. À dater de ce jour, une grande douceur tomba sur Clotilde. Sa vie coula comme une jolie rivière sans cascatelle ni tourbillon. Elle accepta la paix du même cœur qu'elle avait accepté les tourments, avec la volonté tranquille et forte de ne pas se laisser ravir son trésor. Ce bonheur ne dit-il être qu'une simple trêve, elle voulut en jouir pleinement et s'approvisionner au moins de courage en vue des tribulations ultérieures. Elle passait chaque jour quelques heures à l'atelier de Gacougnol qu'elle émerveillait de plus en plus et qui avait entrepris avec un zèle incroyable son éducation. La pause de la sainte Philomène n'avait pu se prolonger au-delà de quelques séances, mais il déploya son génie pour donner à cette compagne charmante l'illusion d'être indispensable. Il eut l'originalité de l'utiliser en qualité de lectrice pendant qu'il travaillait à son chevalet, sous le prétexte linéamentaire que les vers de Victor Hugo ou la prose de Barbey d'Aurevilly soutenaient son inspiration, comme s'il avait entendu les plus suggestives mélodies de Chopin ou de Beethoven. Étant, ainsi que la plupart des méridionaux cultivés, un assez bon virtuose de lecture, il en profitait pour lui apprendre cet art difficile, si profondément méprisé par les gazouillards de la Comédie-Française et les liquidateurs de diphtongues du conservatoire, lui révélant de la sorte les plus hautes créations littéraires en même temps qu'il lui donnait le secret d'en exprimer la substance. Le sublime est la manière de s'en servir, disait-il. Un jour, qu'il lui avait fait entièrement lire Britannicus, édulcorant par de fréquentes interruptions l'effrayant ennui de ce chef-d'œuvre, il la conduisit au Théâtre Français, où l'on jouait précisément la tragédie dont elle bourdonnait encore. À l'extrême stupéfaction de son écolière, il lui fit remarquer que pas un seul vers du poète, pas un seul mot n'est prononcé, mais que les comédiens fameux, nourris dans les gueuloirs de la tradition, juxtaposent au texte une espèce de contrepoint déclamatoire, absolument étranger, qui ne laisse pas transparaître un atome du poème vivant qu'ils ont la prétention d'interpréter. Il lui montra de quelle manière le public, enlevé au troisième ciel de la rengaine et hypnotisé par les mots de diction, de syntaxe phonétique et d'intonations émotionnelles, etc., comme par des bouchons de carafe, croit sincèrement entendre du Racine, que les acteurs, encore plus sincères, croient lui débiter. Ce peintre singulier découvrit alors en lui-même de miraculeuses facultés pédagogiques auparavant insoupçonnées. Il savait à peu près un assez grand nombre de choses, mais lorsque sa clergie était en défaut, les lucides explications qu'il offrait de son ignorance paraissaient plus profitables que l'objet même dont il s'avouait indigent. Il disait par exemple n'avoir jamais rien compris à ce qu'on est convenu d'appeler la philosophie, n'ayant pu arriver à la préalable conception du toupet des cuistres, qui ose tenter la mise en équilibre des conjectures sur les hypothèses et des inductions sur les postulats. À ce propos, il se répandait en malédictions contre l'Allemagne, qu'il accusait avec justice d'avoir, de son lourd esprit domestique, attenté au bon sens des races latines, éternellement désignées, malgré tout, pour la domination sur cette racaille. « Laissez-moi donc tranquille, criait-il à Clotilde, qui ne le tourmentait guère pourtant. Il n'y a que deux philosophies, si on tient absolument à ce mot ignoble. La spéculative chrétienne, c'est-à-dire la théologie du pape, et la torchéculative, l'une pour le midi, l'autre pour le nord. Voulez-vous que je vous fasse en deux mots cette histoire de dégoûtation? Avant votre Luther, on n'était pas déjà trop brillant dans le monde germanique. Quand je dis votre, j'entends le Luther de cette nation crapuleuse. C'était une ingouvernable pétaudière de 500 ou 600 états dont chacun représentait un grouillis de caboches obscures, imperméables à la lumière, dont les descendants ne peuvent être orientés ou disciplinés qu'à coups de trique. L'autorité spirituelle était là-dessus comme l'abeille sur le fumier. Luther eut cet avantage suprême d'être le salaud attendu par les patriarches de la gueuserie septentrionale. Il incarnait à ravir la bestialité, l'inintelligence des choses profondes et le croupissant orgueil de tous les buveurs de pissa de vache. Il fut adoré naturellement, et tout le nord de l'Europe s'empressa d'oublier la mère Église pour aller dans les fientes de ce marcassin. Le mouvement continue depuis bientôt 4 siècles, et la philosophie allemande, exactement qualifiée par moi tout à l'heure, est la plus copieuse ordure tombée du protestantisme. Ça se nomme l'esprit d'examen, ça s'attrape avant de naître aussi bien que la syphilis. Et il se trouve de petits Français assez engendrés au-dessus des dépotoirs pour écrire que c'est tout à fait supérieur à l'intuition de notre génie national. Cette méthode abréviative convenait admirablement à la droite et rapide intelligence de la jeune femme, qui s'assimilait sur le champ et de la manière la plus heureuse toutes les notions essentielles, qu'elles fussent transcendantes ou élémentaires. En somme, le touchant Pélopidas lui donnait de véritables aliments, malgré le désordre parfois héroïque des aperçus. La science conférée par ce maître était pour elle comme du pain boulangé par quelque mitron somnambule, dans lequel il y aurait eu des pierres, des clous, du papier, des rognures de pantalon, des bouts de ficelle, des tuyaux de pipe, des arêtes de poisson et des pattes de scarabée, mais tout de même du vrai pain de froment qui la fortifiait. « Qu'est-ce que le Moyen-Âge ? » lui demanda-t-elle une fois, après la lecture du fameux sonnet de Paul Verlaine. Ce jour-là, Gacougnol sortit de lui-même et fut magnifique. Il se leva de son tabouret, déposa sa palette, ses pinceaux, son brûle-gueule, tout ce qui peut empêcher un homme de se mettre au diapason du sublime. Et, debout au milieu de l'atelier, prononça ces paroles dignes du grand marquis de Valdegamas. Le Moyen-Âge, mon enfant, c'était une immense église, comme on n'en verra plus, jusqu'à ce que Dieu revienne sur terre. Un lieu de prière aussi vaste que tout l'Occident, et bâti sur 10 siècles d'extase qui font penser aux 10 commandements du Sabaoth. C'était l'agenouillement universel dans l'adoration ou dans la terreur. Les blasphémateurs eux-mêmes et les sanguinaires étaient à genoux, parce qu'il n'y avait pas d'autre attitude en la présence du crucifié redoutable qui devait juger tous les hommes. Au dehors, il n'y avait que les ténèbres pleines de dragons et de cérémonies infernales. On était toujours à la mort du Christ et le soleil ne se montrait pas. Les pauvres gens de campagne labouraient le sol en tremblant, comme s'ils avaient craint d'éveiller les trépassés avant l'heure. Les chevaliers et leurs serviteurs de guerre chevauchaient silencieusement au loin, sur les horizons, dans le crépuscule. Tout le monde pleurait en demandant grâce. Quelquefois, une rafale subite ouvrait les portes, poussant les sombres figures de l'extérieur jusqu'au fond du sanctuaire, dont tous les flambeaux s'éteignaient. Et on n'entendait plus qu'un très long cri d'épouvante répercuté dans les deux mondes angéliques, en attendant que le vicaire du Rédempteur eût élevé ses terribles mains conjuratrices. Les 1000 ans du Moyen-Âge ont été la durée du grand deuil chrétien, de votre patronne Sainte Clotilde à Christophe Colomb, qui emporta l'enthousiasme de la charité dans son cercueil, car il n'y a que les saints ou les antagonistes des saints capables de délimiter l'histoire. Un jour, il y a beaucoup d'années, je fus le spectateur d'une des grandes inondations de la Loire. J'étais très jeune, par conséquent imbécile et aussi peu croyant qu'on pût l'être, quand on est mordu par tous les scorpions de la fantaisie. J'avais voyagé 24 heures dans ces joyeuses campagnes tourangelles, remplies alors des vibrations du tocsin. Aussi loin que mes regards pouvaient aller, sur tous les chemins et sur tous les sentiers, à travers les vignobles et les bois, j'avais été le contemplateur de la panique d'une population au désespoir, fuyant devant la grande folle meurtrière qui avalait les villages, arrachait les ponts, charriait des pans de forêt, des montagnes de débris, des granges pleines de moissons, des troupeaux avec leurs étables, et tordait tous les obstacles en mugissant comme une armée d'hippopotames. Cela, sous un ciel jaune et sanguinolent, qui avait l'air d'un autre fleuve en colère et paraissait annoncer un supplément d'extermination. J'arrivai enfin à une petite ville éperdue et je suivis une foule pâle qui se ruait dans une église des temps anciens, dont toutes les cloches sautaient à la fois. Je n'oublierai jamais ce spectacle. Au milieu de la nef obscure, une vieille châsse en ruine, tirée de quelques dessous d'autel, avait été déposée par terre, et 8 brasiers rouges, allumés dans des grilles ou des réchauds, l'éclairaient en guise de cierge au niveau du sol. Tout autour, des hommes, des femmes, des enfants, un peuple entier prosterné, vautré sur les dalles et les mains jointes au-dessus des têtes, suppliaient le saint, dont les ossements étaient là, de les délivrer du fléau. La houle des gémissements était énorme et se renouvelait à chaque instant comme la respiration de la mer. Déjà fort ému par tout ce qui avait précédé, je me mis à pleurer et à prier en union de cœur avec cette multitude, et je connus alors, par les yeux de l'esprit et par les oreilles de l'âme, ce qu'avait dû être le Moyen-Âge.